L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Bonsoir, bonsoir à tous et toutes, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Handicap Tribune. Et même si ce n'est plus le temps des vœux, ben je vous souhaite quand même une bonne année. J'espère qu'elle a bien commencé, qu'elle se poursuivra bien aussi. Et voilà, moi après un mois de janvier un peu compliqué, même beaucoup, je reviens. Avec ce soir, ben je suis toute seule dans le studio parce que Gisèle m'a dit qu'elle avait un empêchement et Philippe il m'a dit lui qu'il ne voulait pas vraiment venir, il n'avait pas envie. Ben peut-être qu'il aura envie une autre fois, je ne sais pas. En tout cas, ben on va travailler sans eux, hein, voilà. Et puis, on va reprendre le dossier qu'on avait commencé en novembre sur l'habitat inclusif avec ce soir la présentation de la Maison des Quatre qui se trouve à Gardanne, qui est un dispositif d'habitat partagé pour les personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées. Et puis, avec la présentation aussi de Famille Gouvernante, qui est un dispositif de l'UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales, et qui est destiné à des personnes qui sont en difficulté psychique. On est ensemble jusqu'à 21h30 avec une antenne ouverte aux auditeurs, au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Avant de commencer le dossier, je voudrais faire un hommage et dire aux animateurs de la radio que je m'associe à leur peine suite au décès de Patrick Marchaud, qui était un membre actif de la radio et qui est parti récemment, la semaine passée, je crois. D'ailleurs, je le connaissais assez peu. Sidi m'a dit qu'il m'avait aidé quelques fois à venir au studio, mais je ne me souviens pas vraiment de lui, seulement, bon ben voilà, tout le monde est en peine, et moi aussi, bien sûr, parce que quand les gens, les anciens s'en vont, puis en plus, il n'était pas si ancien que ça, Patrick, il n'avait que 60 et quelques années, donc voilà, c'est bien trop tôt pour partir. Et puis, dans mon entourage aussi, ces temps-ci, j'ai eu pas mal de gens qui sont partis, enfin, pas mon entourage immédiat, mais des connaissances. Et c'est pour ça qu'il m'est venu l'idée de rendre hommage à tous ces gens qui sont partis. À ma façon, avec ce que j'ai l'habitude de faire, un petit montage musical, mais ce n'est pas un jeu cette fois, bien que je pense que vous allez quand même reconnaître les titres. Mais en tout cas, on ne joue pas, hein. Je vous dirai les titres après. Ben voilà, on peut y aller. On va essayer.
Fermez toutes les portes, éteins les lumières. Pensez à toi très fort, assis par terre.
Où s'en vont, où s'en vont tous ces potes qu'on aime, nos certaines affections, qu'on est long, qu'on est long à dire les je t'aime, qu'on pense quand ils s'en vont.
Voilà donc une forme d'hommage à Patrick Marchaud et puis à Pierre Lavagne qui était des Beaux-Arts, qui est parti aussi récemment, à Sœur Marie-Louise qui était une ancienne personne, une ancienne religieuse de l'Institut de l'Arc-en-Ciel où j'ai fait mes études. Et puis voilà, tous ces gens qui sont partis et que non, c'est trop con si ça s'arrête, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini avec en reprenant Michel Fugain. Oui, c'est trop con si ça s'arrête quand les gens s'en vont. Non, moi j'espère que ça s'arrête pas, puis je crois vraiment que ça s'arrête pas. Parce qu'on pense à eux et puis parce que, pour moi en tout cas, on les retrouvera, heureusement. Du moins, c'est ce que je crois. Alors, il y avait donc dans ce petit hommage Gérald de Palmas avec Trop tard, Michel Fugain, Où s'en vont, David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps, Patrick Fiori, Les gens qu'on aime, que j'ai d'ailleurs entendu à la radio très récemment, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais Patrick Fiori, mais pas cette chanson-là. Ensuite, il y avait Daniel Balavoine, Partir avant les miens. Et donc, pour finir, une dernière petite note de Michel Fugain, donc... Où s'en vont ceux qu'on aime. Eh bien voilà, pour être un peu plus gai, on va passer à notre première pause musicale avant de rentrer dans le dossier, avec un groupe marseillais qui s'appelle Novazzora. Novazzora, ça veut dire aurore nouvelle, je crois, en bulgare, il me semble. Et c'est un groupe qui reprend des chansons justement d'Europe de l'Est, des chansons roms aussi. Et là, on va entendre Mori, chère Sabina, qu'on me pardonne la prononciation. C'est une chanson hongroise, une chanson d'amour. Et on l'a entendu en fait, enfin moi je l'ai entendu en concert, ils étaient en concert à Notre-Dame-du-Mont, à l'église Notre-Dame-du-Mont, il y a quelques semaines. Et j'ai acheté le disque parce que j'ai trouvé que c'était super sympa. Alors, je n'ai pas trouvé la traduction en français de cette chanson. Elle existe en anglais, par contre, mais je ne vous la donnerai pas. Et donc, voilà la chanson donc, Novazzora, Mori, chère Sabina. Pardon.
Mori drago pikoše, vorbis mange kaki koki, mori drago pikoše. Aj, mori še, mori drago pikonje. Na 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 na. Aj, mori še, mori drago pikonje. Na 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 na. Thank you. picoche, la luma cosomnaka, ay mori drago picoche, ay mori che, mori drago picoñe, na 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 na. Muratina picoña, mura shuka sabina. Ay, mori che, mori drago picoñe. Na 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 na. Ay, mori che, mori drago picoñe. Na 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 na.
Voilà le groupe Novazzora avec Mori Cher Sabina. Si vous avez l'occasion d'entendre qu'ils sont en concert, bah allez-y parce que franchement c'est très sympa. Et c'est un groupe en fait qui est né de la rencontre entre des chanteuses et puis un groupe instrumental qui s'appelle Claire de Lune. Si ma mémoire est bonne, et qui fait du jazz par ailleurs, qui a aussi publié des CD qui sont assez sympathiques apparemment aussi, d'après ce que j'ai pu en écouter. Voilà, alors nous reprenons donc le dossier sur l'habitat inclusif avec la présentation de la Maison des Quatre qui se trouve à Gardanne. Et donc le 4 décembre dernier, ils fêtaient leurs 10 ans, leur anniversaire, avec une petite cérémonie. Tout à l'heure, il y aura un extrait de cette cérémonie-là. Mais pour l'instant, c'est Frédéric Chaptal qui va nous présenter le dispositif et l'association l'AFTC, dont il est le responsable territoire et parcours de vie.
L'AFTC, c'est une association de familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés, hein, des Bouches-du-Rhône. L'association a été créée en 2000. Elle a été par des familles qui étaient directement concernées par l'accident et le traumatisme crânien dont étaient victimes leurs proches. Concrètement, ces familles découvraient et vivaient au quotidien les séquelles souvent complexes du traumatisme crânien et retrouvaient leurs proches ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même, avec des séquelles à la fois physiques, qui pouvaient être physiques, psychologiques, comportementales, avec donc à la clé de véritables situations de handicap qui étaient et qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs difficiles à prendre en compte du fait de la méconnaissance de ces séquelles et de l'absence de réponse adaptée.
Et donc justement,
réponse, hein, après la phase hospitalière qui a motivé, qui a généré cet engagement des familles, qui a donc créé l'association et qui a progressivement développé des réponses adaptées pour les personnes et leurs familles.
Le traumatisme crânien, le fait d'être cérébro-lésé au quotidien, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire un ensemble de difficultés, la présence de séquelles qui sont singulières vraiment, hein. C'est bien entendu des problèmes de mémoire, hein. De mémoire à court terme, une fatigabilité importante, des problèmes cognitifs pour mettre en place ou réaliser certaines tâches, c'est des choses qui sont pas forcément visibles mais qui sont très invalidantes au quotidien. Alors ça peut être pour préparer son repas comme pour mener, conduire une tâche beaucoup plus complexe, administrative ou dans le cadre d'une activité professionnelle par exemple.
D'où une série d'accompagnements que l'association a mis en place.
Effectivement, alors dès 2002, l'association a expérimental qui s'appelait Interaction, qui préfigurait ce qui allait devenir le SAMSA, le service d'accompagnement médico-social, dès 2005. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur projet de vie, et quel que soit le domaine dans lequel voilà, se porte ce projet. Alors, ça peut être effectivement la question de l'activité professionnelle, la question du lieu de vie, de la décohabitation. On a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles l'accident et le vécu traumatique arrivent assez tôt, avec ben voilà, des retours à domicile, des personnes qui n'ont pas conduit un parcours résidentiel, hein, comme on dit, en milieu ordinaire, et qui ont le souhait vraiment ben, de prendre leur autonomie, de prendre leur indépendance et de vivre la vie finalement comme tout un chacun. Le service d'accompagnement intervient avec des professionnels issus du monde social et du sanitaire, hein, les professionnels de santé, voilà, psychologues, ergothérapeutes, médecins, mais aussi animateurs, éducateurs spécialisés, etc. Et l'idée, ben, voilà, c'est à la fois d'évaluer la situation de handicap et de mobiliser toutes les ressources possibles pour que le projet des personnes puisse avancer.
Et puis il y a aussi les GEM et les TC Club.
L'association et les professionnels qui intervenaient auprès des personnes, avec les personnes, ont mesuré effectivement la difficulté pour nombre d'entre eux de retrouver une activité professionnelle. Il y avait le risque de du coup, se retrouver seul, de se replier, de n'avoir pas ou peu d'activité, avec toutes les questions et difficultés que ça peut majorer en termes de troubles, de relationnel avec les proches. D'où la création effectivement des GEM et des TC Clubs, qui sont des lieux d'activité, de vie sociale pour les personnes. Bah, aujourd'hui, l'association dispose de deux GEM, développé de deux GEM, un sur Aix-Aubagne, le premier sur Vitrolles, hein, dès 2012, et des TC Clubs qui préfigurent un peu les GEM, avec bah, des lieux d'activité où concrètement les personnes peuvent venir boire un café, prendre du temps, s'entraider, partager des projets communs, participer à des activités, etc.
Et puis donc il y a ce dispositif de la Maison des Quatre qui a fêté ses 10 ans aujourd'hui. D'où vient ce dispositif? Pourquoi Gardanne?
La formule d'habitat partagé Maison des Quatre a été expérimentée dans la région bordelaise. Dès 1997, la FTC de Gironde a développé ce type de solution avec l'aide et le soutien d'un groupement d'assureurs mutualistes. Et c'est sur la base du modèle bordelais que la FTC 13 a cherché à développer une solution d'habitat partagé dès 2005-2006. Voilà, la Maison des Quatre a ouvert en 2008, mais le projet a été travaillé sur plusieurs années. La localisation de Gardanne, c'est le résultat d'un cahier des charges qui a été élaboré avec le même groupement d'assureurs mutualistes qui était partenaire et qui est propriétaire concrètement de la maison, qui prévoit ben, voilà, de la proximité avec un ensemble de services, l'accessibilité à des transports en commun, etc. Et la localisation sur le secteur d'Aix ou à proximité d'Aix-en-Provence, hein, sachant que l'association développe alors, à la fois un service d'accompagnement et un relais d'accompagnement sur le territoire d'Aix-en-Provence, et puis ben voilà, un TC Club aujourd'hui, un GEM.
Donc cette Maison des Quatre, il y a quatre locataires, comment sont-ils choisis?
Au départ, ce sont les personnes qui se sont choisies. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le cas de l'ouverture de la colocation en 2008 et dans les mois préparatoires et de ce qui peut se passer quand il y a un locataire qui part, qui quitte la Maison des Quatre, parce que ça peut arriver. Le travail préparatoire s'est fait sous la forme d'ateliers. Il y avait un certain nombre de personnes qui étaient intéressées pour aller vers ce type de solution, pour décohabiter, aller sur une formule de colocation. Ces personnes étaient réunies régulièrement, passaient du temps ensemble, participaient à des activités ensemble, sont parties en mini-séjour ensemble à plusieurs reprises. Et l'idée, c'était que les personnes puissent se connaître, apprendre à se connaître, et à l'arrivée, ben voilà, se choisir et ben voilà, se retrouver sur un projet de vie commune. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est fait au départ. Après, bien évidemment, il y a eu des mouvements à la Maison des Quatre. Il y en a toujours. Hein. Alors là, c'est un peu plus difficile, ou en tout cas, ça demande un travail un peu ajusté. L'animatrice qui est en charge de la Maison des Quatre organise souvent des temps conviviaux à la Maison des Quatre, de façon à ce que des personnes qui sont intéressées ou qui seraient intéressées à moyen terme, à court ou moyen terme, pour une solution comme celle-ci, puissent venir passer du temps à la maison, rencontrer les colocataires, partager un certain nombre de choses, ce qui fait que ben, quand il y a une place, ou en tout cas quand il y a un locataire qui part, on ne parle pas de place à la Maison des Quatre, hein, que les personnes puissent ben, connaître et accepter effectivement la personne qui va rentrer dans la colocation.
Il arrive que cette Maison des Quatre soit une étape vers une autre forme d'habitat, vers une vie à domicile?
Ça peut être une étape, effectivement, sur un parcours résidentiel qui conduit les personnes vers davantage d'indépendance, encore, et d'autonomie. On a des personnes qui sont passées par la Maison des Quatre, qui sont allées, qui ont continué sur la colocation, mais sur une colocation à deux, hein, sur un autre territoire. D'autres personnes sont parties, effectivement, vers, parce qu'elles en ont eu le projet, bien évidemment, et la capacité, vers du logement indépendant, autonome, avec leurs d'aide humaine, mais pas dans le diffus. Et puis on a des personnes qui ont évolué vers des établissements aussi, parce que c'était là à la fois leur projet et souvent leurs besoins. Sur 16 locataires actuellement qui sont passés par la maison des quatre, on a 3 personnes concrètement qui sont parties vers des établissements, et les autres ont continué leur parcours résidentiel en milieu ordinaire.
Il y a une personne qui est depuis l'ouverture ?
La durée la plus importante sur la maison des quatre, c'est 5 ans. On a des durées très variables, avec une moyenne de séjour, enfin de séjour, on ne parle pas de séjour, hein, c'est vraiment, il y a le droit au temps à la maison des quatre, les gens sont chez eux, ils restent autant qu'ils le souhaitent, c'est 36 mois.
Et on pourrait supposer que quelqu'un y reste de façon définitive ?
Tout à fait, il y a un droit au temps complètement à la maison des quatre, les personnes sont chez eux. Quand elles viennent à la maison des quatre, elles signent un bail de droit commun, je veux dire, elles sont locataires en titre. La seule limite qu'on peut trouver à la maison des quatre, mais c'est des limites que tout un chacun peut connaître sur une vie à domicile, hein, avec des problèmes de santé, l'impossibilité à organiser, par exemple, un soutien, un étayage suffisant pour que la personne reste à domicile. Mais en dehors de ça, les personnes restent autant qu'elles le souhaitent à la maison des quatre.
Voilà, et bien je crois que c'est la fin. Oui, en effet. Donc, le début de cette interview de la Maison des Quatre, puisqu'il y aura d'autres parties, avec donc Frédéric Chaptal, le responsable territoire et parcours de vie. Et le 4 décembre, il était aussi diffusé, donc à cette fête anniversaire, il était diffusé un petit film qui comportait des témoignages de professionnels et de locataires, des anciens et puis des locataires actuels de cette maison des quatre. Je vais vous en proposer quelques extraits. Alors le problème, c'est que je ne sais pas les noms des personnes, ni des professionnels, ni des locataires d'ailleurs qui y témoignent. Ils étaient forcément affichés dans le film, je pense, mais évidemment, comme j'ai eu le film, mais que je ne vois pas les affichettes des images, eh ben, je n'ai pas pu le savoir. Et bon, ben, j'ai demandé évidemment aux responsables, mais ils n'ont pas eu le temps de me répondre. Ou alors j'ai pas vu le mail peut-être. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, l'important c'est les témoignages. Et justement, y en a, le premier parle de cette différence entre justement le foyer et l'habitat partagé.
J'ai été pendant 15 jours en FAM, un foyer d'accueil médicalisé, c'est très différent. Parce que là, il y a plus de résidents. Et moi, c'est bizarre, c'est aussi ma façon de fonctionner. Hein. Je m'entends mieux avec 5-6 personnes qu'avec une vingtaine. Et dans le FAM, on était vraiment beaucoup. Là, je me sens plus ami que juste copain, par exemple.
Moi, je trouve que c'est mieux parce que j'ai fait le foyer. J'ai déjà fait un foyer spécialisé. Mais moi, ça ne m'aidait pas.
J'avais le problème de maman qui, le médecin me disait qu'il faut absolument la mettre en maison de retraite médicalisée. J'avais Philippe, donc je cherchais, j'ai aménagé un studio dans ma maison en me disant, bon, ben, ça sera pour Philippe, peut-être. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, donc voilà. Donc je cherchais aussi éventuellement une location pour lui, pas loin de chez nous. Mais c'est vrai que ça a été un grand soulagement parce que même le savoir tout seul, il n'était pas en capacité d'être seul dans un logement. Et l'avoir chez moi, enfin même si le logement était un peu indépendant, il n'aurait pas été capable de s'assumer tout seul. Donc ça m'aurait quand même, ça aurait été une charge lourde pour moi. Voilà.
Cette maison des quatre est arrivée à un moment où... il y avait une relation de dépendance très importante entre mon époux et moi. Et ça a permis à ce que Patrice arrive à devenir un petit peu plus autonome qu'il ne l'était. Et à moi, à pouvoir, je vais dire, souffler, mais également... à continuer à avoir des relations beaucoup plus, je vais dire peut-être joyeuses avec Patrice. En tous les cas, voilà, je choisissais les moments où j'allais le voir et c'était des moments, à ce moment-là, vraiment privilégiés.
Donc là, on est ici pour stimuler et les accompagner dans des activités. Donc, comme préparation des repas, sortir, balader, faire des activités au sein de la MD4 ou à l'extérieur. Nous sommes aussi là pour éviter l'isolement de chaque bénéficiaire. Donc, par exemple, faire des sorties tous ensemble, les faire un moment convivial autour de la table du repas, éviter le plus possible qu'ils soient seuls dans leur chambre, quoi, à rester seuls.
Et faire en sorte qu'ils aient des souvenirs ensemble, qu'ils aient des moments ensemble. Donc, on organise, on mange tous ensemble, on prend un café, on fait un pique-nique. C'est des actions diverses et variées, mais qui contribuent à souder ces quatre personnes ensemble.
C'est aussi un lieu de socialisation sur l'extérieur, parce qu'il y a énormément d'activités qui sont proposées.
Chant, cuisine. Quand il fait beau, on va à la pêche. En fait, je vous dis pêche, mais je n'ai jamais été.
Là, la MD4, je continue la kiné, je fais les courses. Des fois, je fais des balades. Voilà, tu vois, vous voyez, on fait des activités comme ça.
Après, dans la femme, on avait des activités. Mais c'était très... c'est des activités obligatoires et on ne les choisissait pas, malheureusement. Parce que moi, Et là, ce qui est bien, c'est que ici, j'ai aussi des activités. Donc, pareil, les activités comme aux femmes au niveau de la fréquence, c'est une fois le matin, une fois l'après-midi, et du lundi au vendredi. Et ce qui est bien ici, c'est qu'en plus, pendant les activités, je peux très bien avoir kiné ou orthophonie. Et ça, ce sont des trucs qui m'intéressent au plus haut point, tout ce qui est la rééducation.
Voilà donc des extraits de ce petit film qui avait été diffusé lors de l'anniversaire de la Maison des Quatre à Gardanne le 4 décembre dernier. Dans les fêtes d'anniversaire comme ça, il y a toujours aussi les officiels, les élus. Et il y avait parmi eux ce jour-là Madame Dalbin, donc la responsable des personnes handicapées au département, mais elle va le dire elle-même. Et je vous propose d'entendre le petit discours qu'elle avait fait à cette occasion. Rassurez-vous, c'est pas très long et puis c'est plutôt sympathique.
En tant que vice-présidente du département délégué au handicap, c'est une joie de voir que vous arrivez à faire sortir des projets, c'est du concret, la MD4, ici. Et puis j'ai discuté avec quelques résidents, ils sont enthousiastes. Et vous arrivez à faire un lieu très convivial, familial, et c'est ce qu'ils recherchent, ce qui n'est pas le cas dans les établissements, dans les foyers de vie, à un moment donné, il faut se rendre compte. C'est pour ça que le département a voté un plan Handiprovence, un plan handicap, en mars dernier, où nous avons mis plusieurs axes, notamment l'habitat inclusif. Et donc nous avons lancé un appel à projet. Vous avez anticipé, puisqu'il y a déjà 10 ans, vous avez en quelque sorte créé l'habitat inclusif, ou alternatif, on l'appelle comme vous le souhaitez. Mais c'est ce que vous avez fait. Et donc, bien sûr, il y a des demandes, mais il n'y a pas assez de place. Donc, avec notre projet Habitat Inclusif au département, nous espérons répondre aux besoins et surtout que les personnes en situation de handicap puissent choisir leur lieu de vie. C'est très important. Et aussi rassurer les familles, et notamment, c'est le répit pour les aidants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le plus important. Bravo, bravo à tout le monde, bravo à cette forme de... solidarité collective, merci. Et vous savez, le département est à vos côtés. Bonne journée.
Et oui, il y a beaucoup de demandes et on espère répondre aux besoins, nous dit Madame Dalbin. Ben, j'espère qu'effectivement ce sera le cas, que ça ne restera pas un vœu pieux. On verra. On la prend au mot, hein. On verra bien ce qu'elle en fait de son plan handicap. En tout cas, donc, pour ceux que ça intéresse, la Maison des Quatre et plus généralement l'association des familles de personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées, le contact, j'ai juste le site web www.aftc13.com. Évidemment, c'est une association nationale. Là, c'est la délégation départementale. www.aftc13.com. Et un numéro de téléphone, j'espère qu'il n'est pas trop privé, parce que je l'ai trouvé comme ça, enfin pas dans les contacts, donc c'était sur une adresse qu'indiquait la Google Map. 04 86 68 86 45, 04 86 68 86 45, le siège est à Aix-en-Provence. Et par ailleurs, sur le site que je vais recommencer à alimenter, il y aura le discours qu'a prononcé Chantal Moineau, qui est une ancienne présidente, je crois, de la FTC, qui a contribué à sa création. Le discours était très bien, au point de vue, enfin, très, très didactique aussi, quant à la création de cette association et puis de la Maison des Quatre. Et du coup, bah, j'ai pensé que ce serait bien de le mettre en intégralité sur notre site. Ce sera fait dans quelques jours. Voilà, voilà. On va peut-être passer à la pause suivante, parce que bon, bah, dans les maisons, dans les familles, on se chamaille. Il y a parfois des déménagements. Ça fait parfois pas mal de chahuts. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les familles et les maisons, parce que dans notre pays aussi, il y a pas mal de, disons, de manifestations et de bazar, on va dire. Mais bon, pour des bonnes causes peut-être, mais aussi peut-être avec un peu trop de violence quelquefois, me semble-t-il. Enfin, de part et d'autre d'ailleurs, hein, autant de la part de ceux qui répriment que des manifestants. Enfin, quoi qu'il en soit, Monsieur Guy Béard nous en parle à sa manière dans Chahut Bahut.
Grand-père est prolétaire, papa consommateur. Moi, je suis contestataire. Voici pourquoi, quand il s'agit de déménager le bahut de la salle à manger, c'est le chahut on a eu pour déplacer le bahut. Chacun tenait sa méthode pour le glisser le long de l'escalier et le conduire au grenier. Chacun s'accrochait à son opinion en échangeant quelques nions. Corps à corps, métaphore et vase dans le décor. Moi je ne suis pas d'accord. Chahut bahut, chahut bahut, chahut bahut, chahut bahut. Grand-mère lit son bréviaire, maman l'observateur. Moi je suis contestataire. Sacré bahut, quand on se mit à l'emporter, chacun dira de son côté. Quel chahut on a eu pour déplacer le bahut. Moi je veux le mettre en pièce pour le manier plus commodément. Faut le couper en éléments. Ma sœur veut se servir d'une manivelle, c'est une intellectuelle. Et papa, pas à pas, le pousse par le bas. Moi, je ne transige pas. Chahut bahut, chahut bahut, chahut bahut, chahut bahut. Enfin, vaille que vaille, le bahut s'ébranle. En faisant trembler les murailles, ne me demandez pas comment il arrive à caca dans le brouhaha. Quel chahut on a eu pour déplacer le bahut. On en discutait encore lorsque soudain, comme je l'avais prévu, dans un grand chahut bahut, le revoici qui traverse le plafond, retranche la discussion. Quel bahut on l'a eu à peine sur les bras, toute la maison s'effondra. Quel bahut on l'a eu à peine sur les bras, toute la maison s'effondra.
Oui, bon, bah, ça finit plutôt mal, hein, ce chahut-bahut. Mais bon, heureusement, toutes les maisons ne s'effondrent pas, Dieu merci. Mais voilà, donc Guy Béard avec chahut-bahut. Et avant qu'on poursuive le dossier concernant, avec les familles gouvernantes, concernant donc l'habitat inclusif, d'abord, je rappelle qu'on est sur Radio Galère, Handicap Tribune, et que l'antenne est ouverte aux auditeurs au 04... 91 08 28 10, ça y est, je l'ai dans l'ordre, 04 91 08 28 10. Et on va donc donner quelques actus maintenant avant de poursuivre ce dossier. Donc d'abord, vous savez peut-être que la métropole a lancé une nouvelle année thématique, décidément C'est chaque année différent. On redonne encore des manifestations, puis peut-être un peu qu'on lance un peu d'argent, je ne sais trop où, on verra. J'espère que non, quand même pas trop. En tout cas, cette fois-ci, c'est la gastronomie qui est à l'honneur. Et en lien avec ça, la bibliothèque de la Grognarde, qui est donc dans le 11e arrondissement à Marseille, propose un atelier d'écriture ce samedi de 14h à 16h. C'est gratuit, mais par contre, il faut s'inscrire. Au 04 91 89 57 04, 04 91 89 57 04, atelier d'écriture donc sur la gastronomie avec le Centre national de poésie, avec le Centre de poésie de Marseille. Je crois que c'est le Centre national de poésie, oui. Bon, je ne sais plus. Bref, le Centre de poésie de Marseille en tout cas. Et cette bibliothèque de quartier propose aussi le 27 février à 10h puis à 10h45 des contes pour les 0-3 ans et leurs parents évidemment, avec la compagnie du Soulier Rouge. La bibliothèque de la Grognarde propose par ailleurs régulièrement un comité de lecture où sont invités les adultes pour justement discuter de leur lecture. Je crois que le prochain est pour le 28 février à 10h, sauf erreur parce que je n'ai pas relu la date. La bibliothèque de la Grognarde, c'est au 2 boulevard Berthier et c'est dans le 11e à Marseille. On peut y arriver par le tram avec la station La Grognarde. Et puisqu'on parle de livres, le prix Première 2019, le prix Première, c'est un prix littéraire qui est décerné à la Foire aux livres de Bruxelles par un jury qui est composé d'auditeurs de la RTBF, qui est la radio nationale belge. Et donc, ce prix a été décerné cette année à Écorce vive d'Alexandre Leneau, qui est paru chez Actes Sud en octobre 2018. Ce livre, c'est un western, en fait, une espèce de western moderne dans le Cantal d'aujourd'hui. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ce livre a été enregistré par des membres de la radio RTBF, la première, donc, pour la Ligue Braille, qui est la bibliothèque spécifique pour les personnes aveugles en Belgique. Voilà, qui est une bibliothèque, et pas que d'ailleurs, parce que c'est une des plus grosses associations, un peu comme l'association Valentin Huy en France. Et donc, à cette bibliothèque, on peut d'ailleurs s'y inscrire, même si on n'est pas belge. Il y a un service de prêt international, donc on peut aussi s'y inscrire quand on habite la France. Et que dire ? Eh bien, qu'on peut les contacter par mail. Ça, c'est leur adresse, c'est bib@braille.be. bib@braille.be. Alors, ils ont des ouvrages audio, ils ont du braille aussi, mais je crois que pour le braille, ils ne prêtent pas à l'étranger. Par contre, ils ont pas mal de choses en audio. Et l'ouvrage Écorce vive, ben, on peut aussi le trouver disponible sur EOL, qui est la bibliothèque en ligne de l'association Valentin Huy. Sauf que ben là, on le trouve uniquement en voix de synthèse, en tout cas pour le moment. La voix de synthèse, c'est des voix un peu robotiques qui, sans doute, nous permettent d'accéder à beaucoup plus de livres qu'auparavant. Mais la voix robotique, tout le monde ne s'y fait pas. Et beaucoup regrettent qu'on n'enregistre pas plus de livres avec des voix humaines. D'ailleurs, puisqu'on y est, les associations de donneurs de voix un peu partout en France, recrutent certainement des bénévoles qui pour avoir justement pardon, des livres à enregistrer pour les personnes qui ne peuvent plus lire, qu'elles soient non-voyantes, malvoyantes, même dyslexiques aussi, ils peuvent en avoir besoin. Et donc si vous pouvez lire, que vous avez un ordinateur et de quoi enregistrer, ben, vous pouvez vous adresser un peu partout en France, à une association de donneurs de voix. Il y en a une à Marseille, il y en a une à Aix, et puis il y en a pas mal ailleurs. Et puis bon, ben, il y a Valentin Huy aussi qui recrute pour enregistrer des livres. Et puis il y a aussi quelques autres associations qui ont des bibliothèques sonores. On va passer au jeu musical peut-être, hein, parce que ça fait un petit moment là que je me dis qu'on ne l'a pas passé. Et ben, il y aura peut-être qu'un seul passage, d'ailleurs, parce que le temps commence à tourner. Mais ben, on va cette fois-ci parler musique avec le jeu musical. Tiens, ça tombe très bien, hein, c'est normal, très logique. Eh bien oui, il s'agit de reconnaître des titres qui parlent d'instruments de musique, avec deux titres instrumentaux et puis les autres, c'est des titres chantés.
Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note, avec un blason à la clé, mon lard se mettrait à gonfler.
Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon.
Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh oh, Mr. Benjo, les filles à marier.
T'es comme un baratin qui cause en mi bémol, t'es comme une vieille putain qui monte à l'entresol.
Dans ce piano tout noir, il y a la femme que j'aime, avec ses cordes graves et ses notes d'espoir, les enfants de l'amour qui me donnent le thème, et le temps que je passe à les chanter ce soir.
Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique, que sonate ou java, concerto, polka, il aime la musique.
Voilà donc une huitaine de titres à reconnaître qui parlent d'instruments de musique. Je pense qu'il y en a que vous aurez sans doute reconnu. Peut-être le premier titre, le premier instrumental est peut-être un peu compliqué à reconnaître pour ceux qui n'ont pas l'habitude du chanteur concerné. Mais ceux qui connaissent devraient le retrouver. Bon, on passe tout de suite au premier volet de l'interview concernant les familles gouvernantes. J'ai donc fait un reportage au boulevard Longchamp où ils ont un de leurs logements. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Eh bien voilà, je suis ici donc au 36 boulevard Longchamp dans un logement qui fait partie du dispositif famille gouvernante avec Jocelyne.
Oui.
Et Audrey.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Jocelyne, vous êtes locataire de ce dispositif?
Oui, ça fait à peu près 4 ans que j'en bénéficie.
Et vous, Audrey, vous êtes responsable?
Responsable du dispositif pour l'association UDAF des Bouches-du-Rhône.
Alors, on va commencer déjà par expliquer ce que c'est l'UDAF.
Alors, l'UDAF, c'est une association, donc l'Union départementale des associations familiales, qui a pour vocation à défendre les intérêts des familles et de gérer également des services dans l'intérêt des familles. L'UDAF a créé le dispositif il y a maintenant 11 ans, nous sommes dans la 12e année. Il s'agit d'un dispositif de logement accompagné pour des personnes en situation de difficulté psychique qui bénéficient d'une mesure de protection. Et l'idée, c'était d'ouvrir le champ des possibles entre l'hôpital ou l'institution ou l'extrême solitude, de pouvoir offrir un logement accompagné en colocation pour que les gens bénéficient d'une entraide, d'une solidarité entre eux.
Combien il y a de personnes qui vivent dans ce logement-ci?
Nous sommes 5 dames. On a 4 chambres au premier étage, une salle de bain commune pour les 4 chambres. Là, nous sommes dans la pièce à vivre commune où on peut cuisiner et participer au ménage et regarder la télévision. Alors juste à côté, vous avez notre salle de bain commune et ma chambre.
Comment se passe l'accompagnement?
Chaque personne a sa chambre qui est son espace privé, les pièces communes qui sont partagées. Vient travailler du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour, une gouvernante qui est toujours la même sur les logements, qui pour ce logement au 36 boulevard Longchamp s'appelle Véronique, qui connaît bien ces dames et qui les accompagne pour toutes les tâches du quotidien, pour les aider à faire les courses, les aider à préparer le repas, rappeler les rendez-vous, les aider à l'entretien du logement, participer et animer des activités avec elles, selon leurs désirs, leurs souhaits, veiller à ce que ça se passe bien. Au niveau de l'accompagnement, il y a également la présence d'infirmiers libéraux matin et soir, 7 jours sur 7, pour avoir une veille médicale et s'assurer également de la prise des traitements. Et enfin, il y a des coordinatrices de proximité qui sont référentes du logement parce que nous avons 11 logements en tout, sur Marseille mais également sur la Ciotat. et elles interviennent chaque semaine au sein des logements pour s'assurer que tout se passe bien, pour régler les petits litiges, pour éventuellement faire les entrées de nouveaux locataires, la sortie des locataires qui ont d'autres projets. Voilà, veiller à ce que tout le monde trouve sa place au sein de ce logement.
Il y a des assistants de vie également ou pas ?
Alors, la gouvernante est auxiliaire de vie sociale, de formation. Elle est employée par une association qui s'appelle l'ADAR, avec laquelle nous travaillons depuis le début sur ce dispositif. Et ce sont toujours la même. Donc, ce sont des personnes formées. Ce sont également des personnes que nous accompagnons dans leur formation au fur et à mesure des années. Et elles bénéficient également d'analyses de la pratique pour pouvoir répondre au mieux et adapter leurs réponses au quotidien.
Donc ici, en fait, Jocelyne, vous avez 4 colocataires. Vous faites ensemble les activités de ménage, les courses. C'est vous qui les faites ou c'est la gouvernante ?
On est chapeauté par la gouvernante. Elle nous initie au ménage au départ, puis ensuite on le fait en autonomie surveillée. Et pour les courses, c'est la même chose. Donc, on l'accompagne à tour de rôle pour les courses. En ce qui concerne la cuisine, c'est Véronique qui s'en charge. Cependant, on peut ajouter des tâches ménagères, comme l'épluchure des légumes, des choses comme ça. La vaisselle, l'entretien des communs, du sanitaire.
C'est vous qui choisissez les menus de vos repas ?
Oui. C'est nous qui choisissons. De la limite où le budget nous alloue 7 euros par jour pour un repas, plus les produits d'entretien. Donc, on ne roule pas sur l'or, loin de là, mais on est bien équipés, on mange bien, les repas sont équilibrés, nous les choisissons, la gouvernante nous aide à choisir, ou elle peut également proposer des choses auxquelles elle aura pensé. Et voilà, sinon pour les activités, donc c'est l'UDAF qui organise les activités, c'est ça
Alors, oui. Chaque personne a sa vie, a ses activités propres, oui. Et puis nous, en complément, en fonction du groupe, de ses aspirations, de ses souhaits, on peut faire des propositions, par exemple sur le logement qu'occupe Jocelyne. Jocelyne et plusieurs de ses colocataires font du théâtre ensemble. Oui.
Et en fait, dans ces logements donc, des familles gouvernantes, il y a des gens qui ont des activités professionnelles ou pas ?
Quelques personnes ont une activité professionnelle dans le cadre d'ESAT, de messieurs qui sont sur d'autres logements. La majorité des personnes ne sont pas en capacité de travailler à ce jour.
On parlait tout à l'heure de personnes qui sont mises sous protection. Ça veut dire quoi, être mise sous protection ?
Certaines personnes, en raison de leur handicap, n'arrivent pas à suffisamment à gérer elles-mêmes leur situation administrative et financière. Dans ce cadre-là, la personne peut bénéficier d'une mesure de protection. Quand vous avez besoin uniquement d'une assistance, c'est une mesure de curatelle. Lorsque vous êtes malheureusement en incapacité totale de gérer par vous-même votre situation, vous pouvez bénéficier d'une mesure de tutelle. Toutes les personnes accueillies dans le dispositif bénéficient d'une mesure de protection à ce jour. Nous essayons d'agrandir le public vers lequel nous pourrions nous tourner, parce que nous avons des personnes qui sont en situation de handicap psychique qui n'ont pas de mesure de protection. Il est important de pouvoir ouvrir cette offre de logement accompagné également à ces personnes. Nous sommes en réflexion par rapport à ça.
Alors, on a donc un logement qui est une alternative à l'établissement ou à l'hôpital d'une part, et à la vie à domicile d'autre part. Est-ce qu'il y a quand même des allers-retours, j'allais dire, entre justement ce logement et puis malheureusement l'établissement, ou heureusement si c'est la volonté de la personne, et puis la vie à domicile éventuellement ?
L'idée, c'est vraiment de proposer un logement pérenne où les gens ne se sentent pas seuls et sont étayés parce qu'ils en ont besoin. À partir du moment où ils sont colocataires, s'ils ont besoin de soins, ils peuvent aller à l'hôpital le temps qu'il sera nécessaire à leur santé. Le logement est garanti, donc ils payent leur charge et leur part de loyer. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un lieu de vie où les personnes peuvent habiter, reprendre pied et reprendre pied au niveau de leur vie du quotidien, mais aussi à habiter le quartier et avoir une vie sociale riche.
Et donc, on peut vivre dans ce logement autant que l'on le souhaite.
Exactement. Le seul critère, c'est est-ce que les gens se sentent bien? Est-ce que ça correspond à leur projet? Est-ce que la cohabitation est toujours possible? On n'a aucune limite en termes de durée. On a des gens qui sont dans le dispositif depuis plus de 10 ans, qui s'y sentent bien. D'autres, au contraire, qui voient ça comme un tremplin pour retrouver une autonomie, réapprendre les gestes du quotidien en vue de prendre un logement seul.
C'est mon cas.
Et c'est le cas de Jocelyne.
Voilà, c'est-à-dire que je me sens bien, mais en gouvernante, mais j'ai aussi besoin d'une indépendance. Et j'ai besoin de me sentir un peu moins étayée, et tout en bénéficiant d'un entourage, infirmier. J'aimerais bien vivre seule en appartement. Et pour l'instant, c'est le CMP, Centre médico-psychologique, qui me propose de visiter des appartements et de voir si c'est possible avec mon budget. Donc, la semaine prochaine, je devrais déjà avoir un monsieur de Solia, cet organisme qui s'occupe de trouver des logements pour les personnes qui sont entre guillemets stabilisées ou en voie de stabilisation et qui cherchent à avoir un logement individuel.
La cohabitation à plusieurs, c'est pas forcément toujours évident, non ?
Non.
Ça arrive que vous vous
chamaillez
un peu ?
Oui, ça arrive.
Et du coup, c'est la gouvernante qui essaie de raccommoder et
de temporiser, oui.
Temporiser les choses ?
On essaie, dans un premier abord, d'accorder nos violons, et si ça n'est pas possible, c'est la gouvernante qui recueille les témoignages de chacun. Et qui arbitre les possibles litiges ou les possibles conflits pour que tout revienne en ordre.
Et du coup, quand vous choisissez vos locataires, comment vous faites ?
Alors, nous avons un dossier de candidature avec différents éléments sur le parcours de la personne, savoir quel est son projet par rapport au dispositif, et également des éléments médicaux sous pli confidentiel. Nous avons une commission d'admission au siège, 4 médecins des différents secteurs hospitaliers psychiatriques de la ville de Marseille. Et donc cette commission se réunit, donne un avis par rapport aux candidatures. Si la personne est retenue, est inscrite sur une liste d'attente et nous proposons la place en fonction des places qui se libèrent. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir des groupes un petit peu compatibles les uns envers les autres. Après, en effet, la cohabitation, comme vous le disiez, ça peut provoquer parfois des heurts.
Et il est arrivé que les heurts soient trop violents pour que des gens puissent demeurer dans votre dispositif ?
Il arrive que des gens aient envie d'entrer dans le dispositif en pensant que c'est une solution à leur situation, et puis dans les faits, de se rendre compte que ça ne leur convient pas. Donc tout le travail des coordinatrices de proximité, c'est justement d'accompagner ces personnes vers une orientation plus adaptée, permettre ainsi pour eux d'être mieux et ainsi libérer la place pour quelqu'un qui souhaite intégrer un des logements accompagnés du dispositif.
Alors, c'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on a forcément les mêmes amis ou qu'on n'a pas forcément envie aussi d'avoir une aventure ou une vie plus longue avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire ou une partenaire, on va savoir. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Ici, il n'y a que des femmes d'ailleurs ?
Oui. En ce qui me concerne, je n'ai pas de compagnon, je n'en souhaite pas vraiment. Mais je sais que si c'était le cas, je pourrais rester en famille gouvernante et présenter mon compagnon à la gouvernante, aux colocatrices, et éventuellement partager des moments ensemble avec mon compagnon et avec les colocatrices et la gouvernante. C'est tout à fait possible.
On est dans un dispositif ouvert, donc.
On est dans un dispositif ouvert. L'idée, c'est que vraiment, les gens sont chez eux, avec un accompagnement étayé pour être rassurant et efficace, pour leur permettre de rester chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Après, on est aussi dans de la cohabitation, donc il faut que, quand quelqu'un vient avec un membre de la famille, ou un compagnon, ou une compagne, ça se passe bien pour les autres, et que ça ne soit pas vécu comme une intrusion. Donc le tout, c'est de veiller que l'intimité des uns n'empiète pas sur l'intimité des autres. D'où le travail des gouvernantes accompagnées par les coordinatrices de proximité, pour trouver toujours un bon équilibre, où le groupe puisse bien vivre ensemble, et chaque individu puisse bien vivre sa vie.
Voilà donc l'interview concernant les familles gouvernantes. Il y aura une petite partie encore tout à l'heure, donc avec Audrey et Jocelyne, que je remercie d'ailleurs Jocelyne de sa participation. On parlait au début de l'émission de personnes disparues, et souvent quand quelqu'un disparaît, surtout quand c'est un parent, la mère, le père, et ben avec les fils, il y a des soucis d'héritage. C'est ce que va nous chanter Félix Leclerc.
À la mort de leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Les bons de la victoire disparurent en premier, et les fonds de tiroir étalés sur le plancher. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Moi je prends la maison, je suis l'aîné des garçons. Non, toi ce sera le piano, emporte-le donc sur ton dos. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. La terre, voyons notre terre, on se la divise en lopin. Non, c'est pas nécessaire, elle l'a donnée aux voisins. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Dites-nous dans les bâtiments, qui c'est qui va mériter? C'est écrit dans le testament, que ça va aux œufs de charité. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, vache au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Le fils qui est médecin hérite du râteau à foin, celui qui est aviateur d'une paire de bœufs sans valeur. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Béatrice voulait le veau, c'est Siméon qui l'a eu, donc elle a ouvert le clos, v'là l'orphelin dans la rue. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. L'engagé de la maison reste collé avec l'horloge, dans le tic-tac de l'horloge était roulé un million. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, c'est la vieille qui a gagné.
Le volet humoristique de Félix Leclerc, hein, parler de choses sérieuses tout en y mettant beaucoup d'humour. Eh bien oui, comme dans le livre d'ailleurs qui s'appelle « Apprenti Maccabée » qui est paru en 2014, qui est un livre de Grégoire Sommer, je ne sais pas, S-O-2-M-E-R, et qui raconte l'histoire de Frank, qui est un vulcanologue, qui part en mission en Nouvelle-Zélande. Seulement, son avion s'écrase et Frank meurt. Mais en fait, il commence après un autre voyage dans un monde qui est parallèle, où il va de surprise en surprise, d'interrogation en interrogation. C'est une espèce de monde où on le... Enfin, c'est assez difficile à décrire parce que c'est... C'est un livre qui est assez drôle, qui en même temps parle de choses très sérieuses. Et donc, que je vous invite à lire, parce que ça délivre au final un message tout à fait positif qui pourrait se dire « il faut aimer les gens pendant qu'ils sont vivants et il faut leur dire ce qu'on a à leur dire tant qu'il est temps ». C'est ce que nous chantait un peu Patrick Fiori tout à l'heure. Et ben, c'est tout à fait ça. C'est un très beau livre. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et voilà. On va... Peut-être, voyons, quelle heure il est, 21h03, oulala, le temps passe trop vite décidément. Eh bien, on va quand même passer le jeu musical une deuxième fois, des fois qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait appeler pour jouer. Et puis on passera ensuite la fin du dossier sur les familles gouvernantes.
Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note.
avec un blason à la clé, mon lard se mettrait à gonfler.
Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon.
Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh oh, Mr. Benjo, les filles à marier.
T'es comme un baratin qui cause en mi bémol, t'es comme une vieille putain qui monte qu'à l'entresol.
Dans ce piano tout noir, il y a la femme que j'aime, avec ses cordes graves et ses notes d'espoir, les enfants de l'amour qui me donnent le thème, et le temps que je passe à les chanter ce soir.
Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique, que sonate ou java, concerto polka, il aime la musique.
Voilà, jeu musical autour des instruments de musique, donc avec, si vous le voulez, encore un peu de temps pour nous appeler, pour m'appeler en tout cas, au 04 91 08 28 10. Et puis si vous avez des propositions de jeu ou si vous avez aussi des propositions de sujets pour les prochains numéros d'Handicap Tribune, eh bien, ils sont bienvenus, que ce soit par téléphone, sur le portable de l'association, parce que la ligne fixe ne fonctionne plus pour le moment. Bah oui, j'ai eu des problèmes de famille et du coup, ma ligne fixe associative, comme je ne suis plus au 10 rue Brochier, ça ne marche plus. Et donc, que du portable pour l'instant. 06 81 13 24 68, ça c'est le numéro de la Luciole. 06 81 13 24 68. Et puis le mail fonctionne toujours pour l'instant. La Luciole Trait d'Union Marseille @club trait-d'union-internet.fr ou bien le site avec le formulaire de contact www.laluciole.asso.fr. C'est peut-être plus facile à retenir. laluciole.asso.fr avec les trois W devant. Voilà, la fin du dossier donc sur les familles gouvernantes avec des choses un peu plus sérieuses. On va parler financement notamment.
Sur le plan, disons, très financier dont on parle beaucoup actuellement, un dispositif comme celui-ci, c'est un dispositif qui est plus cher que des constructions de foyers ou qui... D'abord, ce n'est pas de toute façon la même philosophie, j'allais dire. Est-ce que c'est des dispositifs aussi qui sont voués à être justement multipliés ?
Alors, je pense que oui, parce que d'abord, ça répond à un réel besoin, une réelle demande des personnes. Tout le monde n'a pas le désir de vivre dans du collectif, tout le monde n'a pas le désir d'être seul, et au milieu, il faut tricoter, je dirais, des solutions qui correspondent aux désirs des gens.
J'aime bien cette idée de tricoter.
De tricoter une solution, oui, c'est vraiment ça. Et c'est là où on voit que sur chaque logement, il y a une dynamique différente, parce que ça dépend du groupe, ça dépend du lieu, ça dépend des aspirations et des capacités de chacun. Donc on parle vraiment souvent de tricoter des solutions. En termes de coûts, alors, chaque personne participe au paiement du loyer et des charges, hein, on répartit au niveau des 5 personnes. De même, elles mettent un budget commun pour l'alimentation, qui permet de faire les courses pour le groupe. Et au niveau de la gouvernante, la plupart des personnes bénéficient d'une aide grâce au conseil départemental dans le cadre de l'aide sociale à titre dérogatoire qui est accordée aux bénéficiaires du dispositif en fonction de leurs revenus. Pour vous donner un exemple, un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, donc maintenant 850 euros à peu près, quoiqu'elle ait légèrement augmenté au mois de novembre, aura un reste à charge pour le coût de la gouvernante de 30 euros uniquement, d'un euro de l'heure. On a aussi pu négocier avec le conseil départemental qui nous a accordé ça, de pouvoir mutualiser ces aides. Ce qui fait que la gouvernante est là à raison de 150 heures par mois, à temps plein, tous les mois, même si la personne est hospitalisée, on garantit cette stabilité-là. Il n'y a pas de mouvement d'horaire en fonction des départs, des venues, etc.
Et puis, il n'y a pas non plus de turnover des personnes aidantes.
Exactement. Vous avez une gouvernante référente, vous avez un petit peu de turnover, je dirais, sur les remplaçantes quand elle est malade, quand elle est en congé. Mais pour les locataires, ils savent que du lundi au vendredi, ils auront quelqu'un à raison de 7 heures par jour. Les gouvernantes apprécient beaucoup leur métier, elles sont très investies. Et vraiment, quand elles s'investissent sur un logement, Elles y sont, elles y restent tout le temps. On n'a jamais eu beaucoup de turnover, hein, vraiment.
Il y a des dispositifs où il y a une surveillance 24-24, c'est le cas ici ?
Pas du tout. Ici, il y a les gouvernantes qui sont là, je vous dis, à peu près de 7h à 14h tous les jours. Vous avez les infirmiers libéraux classiques, hein, qui passent matin et soir, qui, pareil, sont des équipes toujours les mêmes, hein, pour assurer une surveillance qui ait du sens et de qualité. Mais hormis ça, les après-midi, les soirées, les week-ends, les personnes sont chez elles, les repas sont prêts pour les aider, le ménage est fait et elles vivent leur vie. Donc il faut aussi avoir des capacités d'autonomie. On ne peut pas, quelqu'un qui ne peut pas, qui a besoin d'une surveillance H24, malheureusement, il ne trouvera pas ça dans le dispositif famille gouvernante.
Vous êtes dans un immeuble où il n'y a que vous comme logement, disons, particulier ?
Alors, dans cet immeuble, il y a trois logements. Vous avez au rez-de-chaussée un autre logement du dispositif famille gouvernante qui, là, est composé d'un groupe de 5 messieurs. Et à l'étage intermédiaire, vous avez une dame qui est seule avec sa famille. Donc, les logements sont dans différents arrondissements de Marseille, le 11e, le 12e, le 15e, le 1er. C'est vraiment en fonction des opportunités de foncier qu'on peut trouver. Parce que trouver un logement ou une villa avec 5 chambres à un prix raisonnable pour que financièrement ça ne soit pas trop lourd pour les personnes accueillies, c'est un vrai défi, mais on essaie d'y remédier. Nous avons aussi essayé d'étoffer l'offre de logement justement pour des personnes un petit peu comme Jocelyne qui souhaitent gagner en indépendance. Nous avons deux unités famille gouvernante composées de studios assorties d'une pièce commune qui permet de vivre et de partager des moments. Et puis dernièrement, sur la Ciotat, nous avons ouvert une unité composée d'un T3 et T4 sur le même palier d'un immeuble neuf, pour avoir à la fois la superficie dont nous avons besoin et en même temps s'adapter à la réalité du foncier actuellement, c'est-à-dire qu'on construit des logements plus petits. Nous avons également des projets pour développer le dispositif en collaboration avec l'hôpital Édouard Toulouse dans le 15e. L'idée serait d'ouvrir une trentaine de places d'ici 2021. De même sur Aix, en collaboration avec le centre hospitalier Montperrin. Nous avons pour projet d'ouvrir deux logements du dispositif famille gouvernante et plus globalement, nous fait remonter des besoins au nord du département, dans la région salonnaise, dans la région Martégal, et nous travaillons avec les différents partenaires pour faire émerger un logement et répondre aux besoins qui nous sont remontés.
C'est un dispositif qui est strictement départemental ou qui existe ailleurs en France ?
C'est un dispositif qui a vraiment été créé par les UDAF, la première étant l'UDAF de la Marne, il y a maintenant plus de 25 ans. Vous avez à ce jour une trentaine d'UDAF qui ont monté des dispositifs donc dans 30 départements pour essayer de répondre au plus près des besoins qui étaient remontés par les associations familiales, par les services mandataires judiciaires.
Et toujours avec de petites unités de 5 personnes au maximum.
Oui, l'UDAF promeut des valeurs familiales. Et donc l'idée, c'était vraiment de permettre cette entraide, cette solidarité, d'être dans quelque chose d'un petit peu hybride, comme je vous disais, de tricoter une solution entre le être totalement seul et le totalement collectif, de créer quelque chose un petit peu de l'ordre du sur-mesure.
Très bien, je crois qu'on a fait l'ensemble des questions, il me semble.
Je ne sais pas si Jocelyne, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre vécu.
Ça fait 4 ans que je suis dans la famille gouvernante. J'ai connu des expériences très riches, j'ai connu des expériences un peu moins agréables. Mais si je devais ne retenir qu'une chose, c'est l'accueil, la solidarité, la formation à des tâches ménagères, parce qu'on n'est pas toujours au top hein, pour ça. On a besoin de conseils, on a besoin d'être entouré. Et non, vraiment, c'est une bonne expérience de vie. Mais si je décide de la quitter, c'est parce que je me sens presque stabilisée psychiquement et j'ai besoin de me retrouver, seule. J'ai besoin de plus d'indépendance et de liberté, voilà.
Il ne reste plus qu'à donner les contacts pour les gens qui sont intéressés par ce type de dispositif, même s'il y a des listes d'attente sans doute, quand même des places, je suppose.
Alors il y a des listes d'attente, mais c'est un dispositif dynamique, donc on a à peu près une douzaine de places chaque année qui se libèrent. Donc si vous voulez, vous êtes intéressé par ce dispositif famille gouvernante de l'UDAF des Bouches-du-Rhône, je vous encourage à nous écrire par mail à famille@gouvernante@udaf13.fr
ou bien me contacter sur mon numéro de téléphone au 06 72 09 38 31. Je vous remercie.
Merci.
Merci beaucoup.
Et moi aussi, je remercie les responsables de famille gouvernante et de la maison des quatre qui m'ont accueilli et les locataires qui ont participé à ces deux reportages. On passe à des actus très vite parce qu'il n'y a plus qu'un quart d'heure. Atelier Beaux-Arts de Marseille, rue Saint-Éloi, atelier pour déficients visuels aux Beaux-Arts. Il reste deux places disponibles pour la deuxième session, celle qui va de février à juin. Les ateliers ont lieu le mardi après-midi entre 14h et 17h. Et on peut y faire du modelage, bien sûr, mais pas que. Également de la peinture ou travailler avec du matériel de récupération ou faire des pliages, des découpages, enfin tout ce qui peut se faire en art contemporain. Et on participe également à un projet qui concerne le Festival des arts éphémères à Marseille. Une manifestation d'art contemporain qui regroupe des artistes, mais aussi les écoles, l'école d'art de Marseille, les ateliers publics de l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à Marseille, qui nous écoutent, eh bien, ils peuvent s'inscrire pour cette deuxième session donc, jusqu'au 28 février. Donc, en fait, c'est le cours de la semaine prochaine qui prend les inscriptions. Et pour cela, on peut contacter le professeur qui s'appelle Pierre Arquita, qui est professeur aux Beaux-Arts et qui mène cet atelier depuis une huitaine d'années, je crois, maintenant. Donc, mail, c'est pierre.arquita, A-R-C-H-I-D-T-A, @esadm.fr, E-S-A-D-M-M.fr, pierrearquita@esadm.fr. Ou le téléphone de l'école, c'est le 04 91 82 83 35. 04 91 82 83 35. Après l'atelier de la semaine prochaine, il ne sera plus possible de s'inscrire par contre. Hein. Donc dépêchez-vous. Deux places disponibles. Ensuite, le 15 mars, il y a une porte ouverte au centre d'enseignement pour les déficients auditifs à Marseille, au Rue Sattel. Il est proposé des visites d'ateliers, des échanges avec les jeunes et les professionnels, et l'après-midi, une table ronde de présentation des formations. Cela donc a lieu à l'IRS de Provence, rue du Rue Sattel, dans le 11e à Marseille. Et pour plus de renseignements, on peut contacter Sabine Tourville, c'est la chef de service, au 04 91 36 42 03. 04 91 36 42 03. Le 13 mars, il est proposé une projection des films Autrement Capable qu'a réalisé Parcours Handicap 13 cette année, et dont, enfin l'année passée plutôt, et dont l'association La Luciole a réalisé les audiodescriptions. Autrement Capable, c'est la parole qui est donnée aux personnes handicapées et aux professionnels qui les accompagnent sur divers sujets de leur quotidien, de leur engagement militant, de la vie familiale et affective, etc. Donc c'est le 13 mars à l'Astronef, qui est un petit théâtre qui est situé dans l'hôpital Édouard Toulouse à Marseille. C'est à 13h30, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Le 16 mars à 15h, c'est au MUCEM, au musée donc des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, une visite de l'exposition Connectivité, qui est le parcours adapté aux personnes handicapées visuelles. C'est une exposition qui porte sur l'histoire des ports de la Méditerranée, sur les échanges donc à partir du 18e siècle, 17e siècle et jusqu'à nos jours. La visite dure 2 heures, 16 mars donc au MUCEM. Il faut s'inscrire bien sûr. Et je crois qu'on peut s'inscrire par le téléphone et en ligne, mais je n'ai pas noté le numéro de téléphone. Ben, vous n'aurez plus qu'à le chercher si vous êtes intéressé. En mars, il y a également une semaine d'information sur la santé mentale, avec notamment 2 colloques, mais il y a plein d'autres manifestations. Un colloque le 19 mars qui concerne les violences subies et la reconstruction psychique, ça dure toute la journée, c'est proposé par l'association Arpsydemio, A-R-P-S-Y-D-E-M-I-O, Arpsydemio. Et donc ce sera à l'Alcazar le 19 mars. Et le 22 mars à Septem-les-Vallons, c'est l'UNAFAM qui propose sa journée, elle aussi, avec notamment une présentation de deux films et une intervention du docteur Belzo qui s'occupe du centre expert pour les troubles bipolaires à Marseille. Voilà, je dirais aussi que le magasin de que l'AVH à Marseille a un magasin permanent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On pouvait acheter quelques petites choses du quotidien, mais pas plus. Et bien maintenant, il y a un magasin permanent avec des choses en démonstration, donc des choses du quotidien, bien sûr, du matériel, des cannes, etc. Mais aussi de la téléphonie, il y a même une plaque à induction et il y a diverses loupes et téléagrandisseurs que l'on peut aussi essayer sur place avant de les acheter. Comme d'ailleurs, on peut peut-être aussi essayer la plaque à induction, ça je ne sais pas. Les téléphones, oui, en tout cas, ils sont chargés, on peut les essayer. Et voilà, donc c'est ouvert de 14 à 17 heures du lundi au vendredi. Et voilà, donc c'est un magasin permanent. J'avais fait une petite interview avec la présidente que je voulais diffuser, mais il est un peu trop tard. Donc voilà, l'annonce est passée quand même. Et puis quoi encore ? Eh bien, le festival Marseille Jazz a annoncé aussi que, avec lequel on coopère tous les ans avec la Luciole, a annoncé que le 19 juillet prochain à 21h au Théâtre Sylvain, il y aura Thomas Dutronc. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le handicap, mais vous pouvez toujours mettre ça dans vos agendas. Et puis, il est très probable que la Luciole fasse de nouveau les programmes en braille de ce festival, comme on le fait depuis plusieurs années. Et puisqu'on parlait encore de livres, dans l'émission, on en a parlé plusieurs fois, et qu'en ce moment, on reparle un peu trop, à mon avis, je veux dire que ce n'est pas normal que ça se passe, que des gens soient antisémites, ça m'agace au plus haut degré, comme d'ailleurs les gens qui sont anti-quoi que ce soit, sauf pour des causes qui en vaillent la peine. Bon, pourquoi pas, mais l'antisémitisme, en tout cas, c'est vraiment pas normal du tout, me semble-t-il. Donc, je vous propose de relire, au cas où vous l'auriez déjà lu comme moi, puisque je suis en train de le relire actuellement, un petit livre qui est plutôt un roman, qui n'est pas donc très, très compliqué à lire, qui est de Simone Signoret, qui s'appelle « Adieu Volodia », qui raconte, qui est paru chez Fayard en 1985, c'est pas tout récent, évidemment, mais ça suit les habitants d'un petit immeuble parisien, de la rue de la Mare, des immigrés juifs d'Ukraine et de Pologne, depuis 1925, à peu près quand ils arrivent, jusqu'à 1945, donc pendant la guerre aussi. Alors évidemment, ben, y a des choses dramatiques, mais pas que. Il y a des choses cocasses aussi, c'est assez drôle parfois. C'est assez plein de tendresse aussi. Moi, je trouve que c'est un très beau roman. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le relis. Et je vous invite éventuellement à le découvrir ou à le relire. Et puis, ben quoi, on va s'arrêter là parce que sinon le chauffeur il va pas être très content, je crois. Parce que. Oh non, quand même, on a encore un peu de temps. Ben ça tombe bien. On va en profiter alors pour passer peut-être le jeu une dernière fois et donner les réponses. Après, évidemment.
Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note, avec un blason à la clé, mon lard se mettrait à gonfler.
Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon.
C'est du jour pour Bill, c'est du jour pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh oh, Mr. Benjo, les filles à
qui cause en mi bémol, t'es comme une vieille putain qui monte à l'entresol.
Dans ce piano tout noir, y a la femme que j'aime, avec ses cordes graves et ses notes d'espoir. les enfants de l'amour qui me donnent le thème. Et le temps que je passe à les chanter ce soir.
Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou Java, concerto polka, il aime la musique.
Alors, qui avait-il donc dans ce jeu? Eh ben, il y avait Black Trombone, qui est une chanson de Serge Gainsbourg. Il y avait Le Petit Joueur de Flûte de Brassens. Il y avait Accordéon, chanté par Juliette Gréco ici, mais qui est aussi une chanson de... qui est une chanson de Gainsbourg aussi. Il y avait Mister Banjo, chanté par Lynn Renaud. Beau Saxo, chanté par l'ami Léo Ferré, bien sûr. Dans ce piano tout noir, qui est chanté par Romain Didier. Le piano du pauvre, par Catherine Sauvage, qui est aussi chanté par Léo Ferré, d'ailleurs. Et puis Johnny, avec Ma Guitare. Voilà ce qu'il y avait dans ce jeu-là, pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, Handicap Tribune, c'est terminé. Je vais aller rejoindre Moby Métropole et mon nouveau logement de l'avenue de Toulon, et puis je vais manger un morceau. Puis moi, je vous souhaite de passer un bon fin de février, un bon début de mois de mars. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve le 20 mars. Avec quel sujet? Ça, j'en sais rien. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les faire connaître. Et surtout, si vous êtes responsable associatif et que vous voulez vous présenter, vous êtes les bienvenus. Voilà, pour ce soir, c'est terminé. Ah oui, mais il y a quand même des pauses finales. Oui, les pauses finales avec... Yvon Etienne, que m'avait fait découvrir Philippe il y a pas mal d'années, et que j'ai retrouvé par Internet, c'était des cassettes, mais là, on l'a retrouvé par Internet avec Je vais à pied. Peut-être que certains Marseillais devraient s'en inspirer, parce qu'il y a tellement de voitures sur les trottoirs que ça devient vraiment, vraiment très pénible. Puis à Marseille, et puis dans d'autres villes aussi d'ailleurs. À condition évidemment que les transports en commun fonctionnent, on peut aller à pied. Mais bon, là... Ce sera autre chose pour Yvon Etienne, ce sera quelque chose d'un peu humoristique, vous verrez. Ensuite, plus nostalgique, je vous propose Youkali, qui est chanté par qui déjà, je l'ai oublié. Ah mince.
Marion
Rampal, voilà. Oui, merci Sidi. Marion Rampal, qui est une chanteuse contemporaine, mais la chanson, elle n'est pas contemporaine du tout. Elle date de 1930 et quelques, 35 je crois. Elle faisait partie d'une comédie musicale, d'une pièce de théâtre exactement à l'époque. Et les paroles sont de Roger Fernet. Et donc sur une musique de Kurt Weill, Youkali. Et pour finir, nous aurons quelque chose de plus gai avec Michel Legrand, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps aussi, et qui nous chantera Trombone, guitare et compagnie. Voilà. Au mois prochain. Au revoir.
Et sur mon trottoir les dimanches de printemps, lorsque tombe le soir, je m'en vais en flânant, lorgnant d'un œil moqueur les automobilistes sages qui regardent passer les heures coincés dans un embouteillage. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. J'aime me promener sous la pluie, sur des routes peu fréquentées, entre les champs et les prairies, seul tout seul, avec mes pensées, mais parfois un as du volant passe près de moi en m'arrosant. Je suis pas d'un naturel méchant, mais une pensée m'effleure pourtant. Je continue longtemps ma route, même si je suis très fatigué, et je ne désespère sans nul doute de le retrouver dans le fossé. Moi, je fais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Vous allez me traiter de vieux, mais cela n'a pas d'importance. Je suis en cela très sérieux, car je mesure les différences
Je crois que là réside le drame. Considérez, vaille que vaille, la voiture comme un tas de ferraille plutôt que comme une deuxième femme. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Un jour passant au bois de Boulogne, par une dame fut abordée. Elle me proposait sans vergogne, avec elle de batifoler. Son programme était alléchant, laissez augurer des délices. Et comme j'avais un peu de temps, je laissais là courir mon vice. Viens vite, monte dans ma voiture, dépêche-toi mon gros chéri. Avec une belle désinvolture, d'un air sérieux, je lui ai dit: moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, comme ça je suis sûr d'arriver. Car de nos jours, il est normal d'empoisonner tous ses voisins. C'est le caractère principal de l'homme dit évolué moyen. Il est passionné de vitesse, de chromes et de carburateurs, même si parfois il serre les fesses, dépassé par son moteur. Et moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr. J'ai lu dans un journal sérieux qu'un corbillard plein jusqu'au nez, le pauvre n'avait trouvé mieux que grimper un peu plié. Il allait au dire du baveux à une vitesse affolante. Au lieu d'un mort, il y en eut deux. C'est une solution charmante. Mon testament, je viens de faire en deux mots. Oui, car je vais mourir, c'est sûr. Mais j'ai fait coucher par le clair, encore en deux mots. Mon corps n'ira pas en voiture. J'irai à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. J'irai à pied, comme ça je suis sûr d'arriver.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. La pauvre âme humaine cherchant partout l'oubli a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos âmes se terrent en quelques le plaisir. Yucali, c'est la terre où
Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien 30 ou 80 qui s'amusent bien tous les soirs avec tous leurs copains, leurs cousins germains. Ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire. Le banjo est un bon gros caduque au boulot et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut, il swingue de son mieux, mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet, il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage, depuis son plus jeune âge, il pense au mariage.
Mes amis, pour une belle famille, c'est une belle famille, croyez-moi. Et que Monsieur Gershwin tourne la machine, que Marnet turbine, et ça les contamine. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Padop badap, going going go going, padop bateriado. Le trombone et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo.
le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie. Pablo, Pablo, Pablo.
L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly. We'll be right back.